C'est parti. Bonjour sorceleur.
Salut.
Comment allez-vous?
Bah super.
Ça va.
Et toi?
Super. Eh ben ça va.
Ouais.
Ça va.
Une grosse journée.
Oui, je passe d'une interview à une autre et en même temps il y a une continuité en fait dans les interviews que je fais aujourd'hui puisque j'ai interviewé Calcine.
Du hardcore.
Du hardcore.
De Paris.
De Paris. Tout comme vous. Et j'ai interviewé ces Grève Cult, ouais. Qui n'est pas du hardcore et qui n'est pas de Paris, mais en même temps du même label.
Voilà.
Frozen Records.
Ouais.
Les copains de Frozen, ouais.
Voilà. Donc ici nous sommes au Motocultor. Où vous avez joué sur la Suppositor Stage.
Exactement.
Si je ne me trompe pas.
Ouais, c'est ça.
Je confonds un peu les scènes.
Ah ouais, c'est pas très clair, mais alors. C'est ça.
Et donc j'étais là pour vous photographier. Donc là, je vous ai vu à la fois sur scène et là, je vous vois une interview. Quel a été votre ressenti en fait de votre prestation ici au Motocultor?
Hyper confortable. Dans l'accueil, dans le son. Ouais, c'était vraiment super plaisant. De jouer, on avait fait quelques festivals français avant, puisqu'on avait fait le Hellfest et le Extreme Fest en début d'été. Donc là, on est un peu sur la fin et ouais, on se sentait à l'aise, c'était vraiment cool.
C'était cool, franchement, ouais, c'était vraiment un bon moment. Enfin, les groupes disent ça un petit peu tout le temps, mais là, pour le coup, enfin, on a un peu reparlé après. Et, on avait vraiment bien aimé parce que je pense qu'honnêtement, on n'a jamais joué devant autant de monde. C'était vraiment cool et puis la réponse du public est. C'est cool quoi. Les publics, enfin le public des festivals métal en France et tout, c'est agréable parce que
en fait,
tu.
Ça, on sait jamais à quoi s'attendre. Du coup, on part de rien. Ouais. Et là, c'était vraiment super cool comme accueil. Donc,
on n'a pas l'habitude. Nous, on a l'habitude de concerts plus un petit peu plus petits, tu vois, dans des clubs avec voilà quelques centaines de personnes tout au plus. Et là, c'est assez différent quoi de faire vraiment un show. Parce que ça dépasse un peu le truc du concert, quoi. Tu dois occuper l'espace et tout.
Oui, occuper tout l'espace scénique, parce que plus ça va, plus les scènes du Motocultor aussi s'agrandissent.
Ouais, ouais. Donc là, c'est la plus grosse aussi qu'on a fait, je pense. C'est plus gros que la Warzone qu'on a fait au Hellfest.
Ah oui?
Ouais, franchement, là-bas, le suppositoire, ouais, c'est une main stage en fait. Donc c'est pas de grand chose, ouais. Mais c'est vraiment une grosse scène. Mais ouais, des bonnes sensations, et puis on s'est bien amusé. Enfin, c'est un peu le but, je pense, quand on fait des festivals comme ça, c'est peut-être de se prendre un tout petit peu moins au sérieux, parce qu'on sait qu'on s'adresse à un public plus généraliste, mm-hmm. et moins focus sur le hardcore, le moins niche, en fait.
C'est des enjeux différents.
Ouais.
C'est un peu différent, mais c'est vraiment, moi, j'aime bien les deux.
Je vois cette année, et particulièrement cette année, l'affiche du Motocultor est très éclectique. On n'est pas dans un festival de hardcore vous avez déjà joué pour Face to Face par exemple à Rennes.
Face to Face, alors oui.
On joue au Super Bowl, donc c'est probablement eux qui organisent.
Oui, c'est ça, c'est Jonathan Guillot, ouais, Face to Face, Super Bowl of Hardcore. Donc là, on est dans un festival hardcore, mais hardcore quoi, très très pointu. Là ici, ouais, au Hellfest. Aussi, on est dans un festival un peu plus généraliste, mais à la différence, enfin, Motocultor Hellfest, c'est qu'au Hellfest, il y a une scène dédiée en fait au hardcore, quoi, la Warzone. Quoi. Ici, il y a quatre scènes, aucune n'est dédiée à un style musical.
C'est intéressant.
Donc c'est.
Ça brasse. Non, c'est plutôt cool. C'est vrai que c'est assez déstabilisant quand on arrive. Parce qu'en fait, la programmation, comme tu dis, elle est très variée. Du coup, il y a un peu à boire et à manger. C'est marrant quoi, de voir les styles un peu s'enchaîner. Et c'est vrai que...
Moi, c'est le premier truc que je me suis dit, c'est... On parle souvent de niche dans le hardcore, parce que c'est une musique de niche. De toute façon, avec des gens qui diguent vraiment des groupes très précis, qui sont écoutés par une petite communauté. Et en fait, quand on a vu la programmation du Motocultor, on s'est dit, putain, il y a des trucs de black metal super intimistes. Et juste après, il y a Didier Super. Du coup, il y a vraiment, comme dit Guillaume, à boire et à manger.
Ouais.
C'est cool parce que je pense que tout le monde y trouve son compte. Mais ouais, c'est pas évident de se dire, attends, mais là, on va jouer. Juste après, il y a un groupe de black metal qui nous succède. Enfin, alors... Pourquoi pas, en fait hein, mais encore une fois, les gens...
Le pire, c'était peut-être, tu vois, Alan Sivel, Deicide, qui se succédait jeudi. Alors, je sais pas si vous étiez déjà...
Non,
déjà,
pas encore.
Déjà la jeudi, quoi. Mais c'est quand même... C'est poussé un peu.
Ouais, sans transition quoi.
Mais c'est cool, hein, ça fait. Enfin, c'est vrai que c'est autre chose quoi. C'est déstabilisant, mais c'est. mais c'est intéressant, je pense aussi, quand tu es dans une perspective de découvrir des choses. Je pense qu'il y a plein de gens, nous on a un petit groupe, tu vois, donc t'as plein de gens qui découvrent. Encore que, tu vois, nous on a vraiment joué dans une fenêtre hardcore, c'est-à-dire qu'il y avait avant nous, il y avait Calcine.
Oui.
Après, juste avant nous, il y avait, sur l'autre scène, il y avait Jesus Peace, qui sont c'est vraiment les patrons du hardcore américain en ce moment.
Oui.
Donc il y a un peu une constante, donc on arrive.
Donc oui, il y avait comme une continuité.
C'est vrai qu'après le groupe qui s'est installé après nous, je sais plus qui c'est, mais bon bah ils avaient des espèces de backdrop vraiment black ou
je sais pas ce que
c'est, mais du coup c'est marrant.
C'est un autre univers, ouais.
Moi je trouve ça plutôt sympa hein, de cohabiter dans ce truc de musique extrême. C'est cool quoi.
Oh, ouais.
Et en même temps, quelqu'un comme Goulax, lui, il a joué dans tous les groupes.
Ah, tu connais Goulax hein?
Ah bah oui, je connais.
Il est juste là, regardez ce qu'il cache.
Oui, bah. Il est venu pour l'interview de Calcine.
Ah bah oui, voilà, c'est pour ça. Et bah oui, oui. Goulax, ouais. Et,
puis
il est breton, donc.
Et oui. Oui, Goulax qui a joué à la fois dans des groupes de black metal, ouais. de hardcore.
On aime bien ça aussi dans Sorcerer.
Ouais. On m'a dit que c'était peut-être le musicien français qui avait joué dans le plus de groupes. Quoi.
Ouais. Et tout à fait. Et puis là, avec nous, il se pose. Enfin, il se pose vraiment. Enfin, il est vraiment membre à part entière maintenant.
Ça fait des dizaines d'années que ça a été le mercenaire, justement, parce que nous, on a eu des groupes avant Sorcerer. Il avait déjà joué avec nous. Et c'était vraiment voilà, des one-shots pour quelques tournées, pour quelques dates par-ci par-là. Là, c'est un membre à part entière de Sorcerer. Et même lui, en fait, il le dit, c'est agréable de, pour une fois, avoir un peu un bébé à soi et pas juste voilà, de filer la main pour quelques dates et ensuite repartir sur autre chose.
Oui, une implication vraiment même artistique et tout ça qui est cool. Quoi.
Donc non, on est, là, son expérience, on va dire, est la bienvenue, même si on a tous eu dans le groupe des choses avant. C'est vrai que c'est assez chouette. Quoi.
Et oui, comme tu disais, vous jouez dans plusieurs groupes, enfin tout ce temps
non,
que vous êtes.
On a eu des groupes avant Sorcerer.
Nous, la spécificité de Sorcerer, c'est vrai que par rapport à d'autres groupes, c'est que personne ne joue dans d'autres groupes.
Donc même Goulax
actuellement,
aujourd'hui,
non, pas actif en tout cas.
Ouais. Ça peut arriver à certains d'entre nous de
dépanner,
de dépanner d'autres groupes, parce qu'à Paris, il y a tout un truc qui se passe où il y a toujours besoin de musiciens, mais c'est vrai que nous, on est très très focus sur ce projet-là.
C'est un projet qui a été fondé il n'y a pas si longtemps que ça, Sorcerer
Entre 2019 et 2020, nous on a...
Les prémices,
ouais. Il y a eu le Covid.
Voilà, nous on est arrivé sur... on a été découvert, on a fait notre premier concert en septembre 2021. Donc c'était la reprise des concerts à Paris, c'était le premier concert.
Mais en fait, le projet est né avant le Covid. Et finalement, comment vous avez vécu cette période Covid?
Il ne nous a pas tant ralenti que ça, en fait, parce que justement, on a pu peaufiner tout ce qui était enregistrement, production, tout ça.
En fait, on devait enregistrer avant.
Ouais.
Et en fait, il y a eu le confinement, le premier. Du coup, décalé le truc à l'été.
C'est ça. Ouais, été 2000.
Attends, non.
21.
Ouais, on a enregistré à l'été 2020.
2020, pardon.
Et après, le temps que ça se fasse, etc., on a sorti les premiers sons en février 2021. Donc c'était en plein la sortie du deuxième confinement, quoi. Et puis après, on a eu les premiers concerts, c'était en septembre 2021. Mais du coup, nous, ce qui est cool, c'est que c'est même pas que ça nous a pas ralenti, c'est que nous, on a très vite été identifiés comme un groupe post-Covid où il y avait un tel besoin de retrouver des groupes, une scène, etc., qu'on a un peu, avec les autres groupes de Paris, en l'occurrence, il y a une espèce d'appel d'air. Oui, il y a une poussée.
L'impulsion de la vague, carrément.
Une vraie émulsion. Et puis nous, on incarnait un tout petit peu parce qu'on était un tout nouveau groupe. Il y avait le groupe Worst Opt aussi, qui est un peu le
fer de lance.
Qui est un peu le fer de lance depuis 10 ans de la scène parisienne. Et du coup, là, ce premier concert et tout, c'était vraiment. Il n'y avait que des groupes parisiens et il y avait une ambiance de ouf et tout, c'était complètement sold out. Et du coup, ça nous a vraiment mis le pied à l'étrier. Donc, rapidement après, c'était plus facile pour nous en fait, parce que comme il y a eu un engouement de créer, on n'a pas eu à démarcher, à chercher des dates et des trucs comme ça. Ça s'est fait très naturellement et très rapidement en fait par rapport à. Nous, c'est vrai que tu vois, on est en 2024, premier concert en 2021, tu vois, c'est. c'est pas banal de faire des trucs aussi gros aussi peu de temps après.
Des gros festivals quand même, parce que vous avez
cité les plus gros en France, tu vois, donc ouais, ça, on peut avoir l'air d'un groupe qui a sauté les étapes. Après, la vérité, c'est que non, on les a pas sauté, c'est juste que on se concentre que là-dessus. On s'éparpille pas et puis on a eu de la chance aussi.
Et qu'il y a un truc que le public de Sorcerer ne sait pas forcément, c'est que Sorcerer, ça a 4 ans. Nous, on est là depuis 15, 20 ans pour certains autres. Donc en fait, les gens en France, on les connaît depuis super longtemps. Les orgas, c'est pareil. Donc on avait déjà en fait un réseau partout en France, en Belgique, un petit peu en Allemagne. En fait, ça va beaucoup plus vite. Une fois que tu remontes quelque chose, tu pars pas de zéro complètement en fait.
Et la signature avec le label nantais, Frozen Records,
Ça s'est fait vraiment dernièrement, parce qu'en fait, on a commencé nous avec un pote sur Paris, chez Deliverance Records. Il nous a tout sorti en fait, de la première EP jusqu'à l'album. Et c'est vraiment l'album qui a été coproduit avec Frozen Records.
D'accord, ouais, coproduction.
En fait, ils ont Kevin de Deliverance, il s'occupe exclusivement des formats vinyle. Et puis on avait on travaillait ensemble un peu sur tout ce qui était communication, promotion, etc. Et Frozen, ils avaient. Ils ont spoté le truc en fait un petit peu en même temps que tout le monde, et puis je sais pas, ça les a intéressés parce qu'on a un peu un groupe qui fait du hardcore mais pas que. Et du coup ça fait un moment qu'on parle avec eux, et puis ils nous ont sorti l'album dans les autres formats, donc cassette et CD. Et du coup de fil en aiguille, vu que c'est quand même pour le coup c'est un vrai label, c'est vraiment des professionnels quoi, c'est vraiment leur taf. Du coup, c'est assez cool pour nous d'être accompagnés par des gens comme ça qui savent ce qu'ils font et qui kiffent vraiment sincèrement le truc aussi. C'est pas une bosse.
Ouais, on sait qu'on est chanceux de toute façon, que ce soit Deliverance ou Frozen, on sait qu'on a un soutien réel et que c'est pas juste, n'est pas un énième produit de leur écurie. Quoi.
C'est l'avantage des petits labels, entre guillemets, même si je pense que Frozen, ils ont vocation à grossir. Je pense pas que ça va devenir une énorme écurie, c'est pas leur souhait.
Oui.
Mais en tout cas, nous, là où on en est, et puis comment on conçoit les choses,
c'était très bien comme étape, quoi.
C'est très bien.
Et puis c'est important pour vous de garder votre liberté artistique.
On est curieux de ça, parce que c'est vrai que on est quand même assez ambitieux avec ce projet, tu vois. On a envie d'aller de le porter le plus loin possible, ce qui veut dire, du coup, en termes de label, tu vois, pour les albums futurs et tout ça, essayer d'aller taper sur du
plus gros,
sur du plus gros, parce qu'en fait c'est la marche un peu naturelle des choses, et qu'en termes de, que si t'as envie de développer ton groupe à l'international ou même nationalement, mais t'es un petit peu obligé de d'être accompagné par des très gros trucs. Donc ça, on verra, c'est pas non plus une fin en soi. C'est juste que on est assez ambitieux, donc on s'interdira rien en termes de.
Mais pour répondre à ta question, on a envie quand même de garder une main sur
tout
ce qui est direction artistique.
Mais c'est une question qu'on se pose, tu vois, c'est si à un moment donné, plus gros label il y a.
Avec certaines exigences qui sortent de nos carcans.
Mais c'est à double tranchant, parce qu'en fait, c'est des mecs. Ce qui est intéressant dans ce genre de deal, c'est que les mecs te filent des moyens énormes pour faire, je sais pas, tu vois, du clip, des promotions, un truc plus XXL. Et du coup, c'est un truc qui serait intéressant aussi, tu vois. Mais du coup, voilà, ça se fait potentiellement, j'en sais rien. Ça dépend du deal, mais ça se fait toujours potentiellement en dépit d'une liberté artistique. Parce que là, du coup, là, avec Frozen ou Deliverance ou nos potes qui nous accompagnent comme ça dans ces labels-là, et qui nous font confiance sur le produit, et ils n'essayent pas de. Eux, ils prennent le groupe tel qu'il est, et puis ils n'essayent pas d'en faire une marque ou un truc comme ça, quoi. Donc, on a de la chance.
Vous avez déjà joué hors de France ?
Ouais.
Donc en Europe ?
Ouais.
Déjà ? Ouais, on a fait pas mal de. On a fait un petit peu tous les pays limitrophes, sauf le sud de l'Europe, mais là on a une grosse tournée européenne qui arrive cet automne avec Guilt Trip et Foreign Ends, où là on va vraiment faire toute l'Europe, enfin en tout cas l'Europe centrale. Mais oui, on est beaucoup allé en Belgique déjà, on a fait la Suisse, l'Allemagne, les Pays-Bas.
En septembre, on va en Angleterre. Et puis oui, pendant la tournée, on parle Guillaume, on a aussi des dates prévues en Italie, en Espagne, en Autriche. Donc,
ouais. ouais, ça grossit, ça brasse de plus en plus large.
De belles perspectives.
Bah ouais, ouais.
Et de nouvelles compositions aussi, peut-être.
Ben on va s'y remettre. C'est vrai que c'était beaucoup d'énergie, l'album, tu vois, de composer, enregistrer tel qu'on l'a fait, sortir le truc et tout. C'est comme on reste quand même à un niveau où on fait un petit peu, on prend part un petit peu à toutes les étapes. On est très content de là où on est arrivé, mais du coup, bah ouais, là le monde aujourd'hui va tellement vite qu'on sait qu'il faut qu'on se remette à composer là, parce que en fait, voilà, j'imagine qu'on va on enregistrera quelque chose. Je sais peut-être pas l'année prochaine, mais celle d'après, tu vois. Il faut toujours continuer à être un peu productif.
Oui.
Il faut trouver le bon équilibre entre être productif de façon, enfin être. Pas être une vache à lait, quoi, mais pas des machines, quoi, et quand même pas trop se laisser flotter, quoi. C'est un équilibre qui est pas facile à trouver, mais...
Ouais, puis jusqu'ici, en fait, toutes les compos sont venues assez naturellement, donc si t'as jamais une souffrance, si tu veux, de composer un morceau, donc on a fait des formats plus petits jusqu'à présent, on a fait un album, on le digère avec tous les festivals, les tournées qui nous arrivent cette année, et c'est super bien, parce que bah, il faut de toute façon le défendre.
Ah bah oui,
Et voilà, comme Guillaume, partir de peut-être fin 2024, début 2025, commencer à recomposer du neuf et à voir quand est-ce qu'on enregistre ça, quoi.
Ouais, ça va être une autre aventure. On va voir en termes de direction même, tu vois, on a des idées, mais ça reste théorique. On verra ce que ça donne.
C'est difficile d'être à la fois sur scène et en studio.
Ben oui, en fait, quand t'as, par exemple, tu vois, le temps que ça va nous prendre, la tournée, la prépa de la tournée, et puis voilà, se reposer quand même et tout, ben oui, c'est autant de temps qu'on peut pas passer à composer, puis c'est pas notre taf, en fait, tu vois, en plus, donc on a tous des vies à côté, des métiers qui nous laissent le temps, certes, de faire ça, mais ouais, faut
jongler avec tout ça.
Tout à voilà. Fait, ouais. Donc c'est à la fois cool et parfois un peu stressant, mais c'est pour ça qu'on fait ça, c'est le kiff.
Très bien, bah, merci beaucoup.
Bah, merci à toi.
Bah,
je vous souhaite le meilleur
très sympa.
Pour la suite.
Pareil pour toi.
Yes, bon courage pour l'après-midi. Bon courage.
Merci beaucoup.